Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe d'une main et vous chatouille de l'autre. Joie de vivre et bonne humeur évidemment, mais jamais au détriment du sérieux journalistique. D'ailleurs, c'est une requête que j'ai formulée auprès de la direction. Supprimer les écrans avec les chaînes infos dans le studio.
Ah,
certes, ça permet de garder un œil sur l'actu, mais ça déconcentre surtout beaucoup Catherine et Liliane, Céline et Eva, qui parfois ne sont plus du tout avec nous.
On voit que ça fait plus maillot de baseball ce qu'elle porte sur BFM. Regarde, tu vas voir, regarde.
Pas très beau en fait.
Non, c'est pas beau, non. Je préférais son pull d'hier.
Mon Dieu. Heureusement, debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda. Le monsieur bien. Histoire d'Europe 1 qui ce matin, alors que le Royaume-Uni connaît maintenant le nom du royal baby, Archie, revient sur l'histoire des prénoms dans la monarchie britannique.
Merci d'écouter Europe 1 en ce jeudi 9 mai. Excellent réveil à tous, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 9 mai. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin François.
Un sommet de l'Union Européenne et un mot qu'il sera interdit de prononcer, Brexit. Les 27 dirigeants vont afficher leur unité et mettre de côté Theresa May. Journée d'action dans la fonction publique. Il n'y a pas que les profs ou les agents de mairie qui vont se mobiliser. Les entraîneurs sportifs qui préparent les champions olympiques de demain sont inquiets pour leur filière. Et puis une énigme bretonne à la fin de ce journal. Des inscriptions du 18e siècle sur un vieux rocher. La mairie de Plougastel est prête à tout pour savoir ce qu'elles veulent dire.
Europe 1.
Le contexte est un peu particulier. Le Brexit, ça n'a toujours pas eu lieu. Les élections européennes, c'est dans 2 semaines. En Espagne, la gauche est en force. En Autriche, c'est la droite forte. Bref, l'Union européenne ressemble ces jours-ci à un kaléidoscope difficile à saisir. Et pourtant, 27 chefs d'État et de gouvernement sont réunis aujourd'hui à Sibiu, dans le centre de la Roumanie. Il y a tout le monde, sauf les Britanniques. Un sommet pour le symbole, Isabelle Horry.
Oui, ce devait être le sommet de l'après-Brexit, celui où les Européens se retrouvaient pour aller de l'avant sans les Britanniques. Mais évidemment, le plan a connu un gros raté, car aujourd'hui, la Grande-Bretagne est toujours membre de l'Union européenne. Les 27 ont quand même maintenu le rendez-vous dans les Carpates. Ils n'ont pas convié Theresa May. Un sommet sans Brexit, quel soulagement, confie un diplomate. Ils vont adopter une déclaration solennelle. Nous resterons unis à travers les épreuves, promettent-ils notamment. En réalité, c'était un vrai défi d'adopter un texte commun, car dans 2 semaines, il y a les élections européennes et les dirigeants se préparent à s'affronter à travers leur famille politique. Trouver un dénominateur commun entre Emmanuel Macron et Viktor Orban, ce n'est pas simple. On en restera donc au grand principe. Les élections sont d'ailleurs dans toutes les têtes. Dans les couloirs, les dirigeants vont commencer à parler de l'après-scrutin, du grand marchandage pour les postes importants comme la présidence de la Commission européenne ou de la Banque centrale. Et là, l'unité sera sans doute beaucoup plus difficile à trouver.
Isabelle Horry, notre spécialiste des questions européennes. Les Restos du Cœur lancent un appel à un plan européen de lutte contre la pauvreté. Ils s'inquiètent d'une baisse de l'aide alimentaire qui aurait un effet catastrophique. Rien qu'en France, 1 personne sur 3 en situation de grande pauvreté bénéficie actuellement du Fonds européen d'assistance aux plus démunis, qui est remis en cause par la Commission de Bruxelles. C'est une première depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Tous les syndicats de la fonction publique, ils sont 9, font front commun contre les projets du gouvernement. Une loi bientôt étudiée est censée moderniser leur statut. Les 5,5 millions de fonctionnaires sont donc appelés à protester, notamment par la grève. On s'attend dans les écoles primaires, par exemple, à 15% de grévistes. Une bonne partie des fédérations sportives va donner de la voix également aujourd'hui pour dénoncer des coupe budgétaire à 5 ans des Jeux Olympiques de Paris. Simon Rubin.
Aux Jeux de Paris 2024, les entraîneurs français gagneront des médailles, mais pour le compte d'autres nations. C'est l'alerte lancée par la quasi-totalité des fédérations sportives. En jeu, les conseillers techniques sportifs, 1600 fonctionnaires qui construisent la performance, entraînent et forment dans toutes les disciplines. Et ces fonctionnaires, l'État n'en veut plus et aimerait que les fédérations les prennent à leur charge. Mais certaines disciplines ne peuvent pas payer autant de personnel. Il va y avoir de la casse. On détruit un modèle d'excellence, témoigne Eva Serrano. Elle est formatrice à la Fédération de gymnastique et comme beaucoup de collègues, elle songe à tout plaquer.
Vraiment très inquiète parce que nos grands entraîneurs nationaux qui préparent nos champions olympiques vont peut-être aller négocier à l'étranger parce qu'ils seront mieux payés. À titre personnel, je suis reconnue sur le plan international et effectivement, j'irai voir ce qui se passe sur la scène étrangère, oui.
Le sport français pourrait ainsi perdre des dizaines de hauts cadres et c'est toute la formation du haut niveau qui est en danger, insistent plusieurs fédérations qui envisagent de boycotter le comité d'organisation des JO.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Une centaine de médecins appellent à un arrêt immédiat immédiat du fichage par les autorités sanitaires des personnes blessées lors des manifestations des Gilets jaunes. Cette tribune est à lire dans l'Express. Les signataires parlent d'une dérive inacceptable, un détournement du fichier CIVIC, système d'information pour le suivi des victimes, mis en place après les attentats de 2015. Les nouveaux tarifs de la SNCF, les cartes de réduction sont désormais baptisées Avantage et toutes vendues 49 €. Par ailleurs, les billets Prums sont désormais échangeables et remboursables, mais il en coûtera 15 € si on s'y prend moins de 48 heures avant le départ.
Europe 1, il est 6h04.
On reparle ce matin d'Asia Bibi, cette Pakistanaise condamnée pour blasphème en 2010.
Elle a enfin pu retrouver sa famille et se trouverait au Canada. Pas de confirmation officielle pour des raisons de sécurité. Asia Bibi est en effet menacée. Cette chrétienne avait échappé à la mort malgré une condamnation et avait été définitivement acquittée il y a 6 mois après une mobilisation mondiale jusqu'au pape François. Xavier Yvon est le correspondant d'Europe 1 en Amérique du Nord où Asia Bibi vient donc d'arriver.
Elle est montée dans l'avion dissimulée sous une burqa, selon l'un de ses amis cité par le Wall Street Journal. Asia Bibi vivait cachée au Pakistan depuis son acquittement il y a 6 mois. Les extrémistes musulmans locaux avaient juré de la tuer. Ils avaient même exigé du gouvernement de lui interdire de quitter le pays. Cette paysanne chrétienne illettrée, devenue un symbole, a donc réussi à partir après 9 années de calvaire. D'abord la dispute avec les 2 femmes musulmanes autour d'un verre d'eau, puis les accusations de blasphème contre le prophète Mahomet, la condamnation à la pendaison, 8 ans dans le couloir de la mort et finalement l'acquittement provoquant des émeutes dans le pays. Selon son avocat, Asia Bibi a rejoint ses filles qui vivent au Canada depuis plusieurs mois dans un endroit tenu secret et comme sa famille, Asia Bibi devrait s'y installer sous une autre identité et sous protection policière. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
De nouvelles sanctions américaines contre l'Iran. Les secteurs du fer, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre sont touchés. Washington réclame un changement radical d'attitude de la part de Téhéran qui a annoncé hier qu'il renonçait à 2 de ses engagements sur le nucléaire.
Et maintenant, François, je préfère prévenir nos auditeurs, vous allez prononcer des mots incompréhensibles.
Grocard Dréard Joseph Bio, et le pire c'est que je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, mais c'est écrit sur un caillou, enfin un rocher, à Plougastel en Bretagne, les inscriptions mystérieuses que la mairie veut tenter de déchiffrer. Il y a 2000 euros à gagner, vous pouvez tenter votre chance. Victor Delande pour Europe 1 va vous donner quelques indices.
Sur cette roche de 2 mètres de large, des lettres alignées, agencées comme un courrier, 3 dates à la fin du message, 1786, 1789 et 1920, et puis un dessin de voilier, une référence peut-être à des marins de passage. Depuis 5 ans, Michel Pogam, conseiller municipal à Plougastel, veut comprendre l'histoire de cette pierre.
Certaines personnes me disent que c'est du breton, du vieux breton, de l'espagnol. Quelques lettres sont à l'envers et ça ferait penser donc à une écriture des pays de l'Est. Voilà nos pistes.
Des pistes bien trop maigres, la mairie s'en remet donc à ce concours pour trouver la réponse. En quelques jours, Véronique Martin, chargée de mission des affaires de patrimoine de la ville, a reçu plus de 800 mails.
J'avais une demande hier d'un monsieur qui habite à Liverpool, un autre à Lausanne, la Nouvelle-Calédonie. J'ai eu un habitant de Plougastel qui a été informé de l'opération par sa fille qui habite en Australie. Ça intéresse le monde entier.
Les apprentis archéologues ont jusqu'au 30 novembre prochain pour envoyer leurs pistes. Ce sera ensuite un jury d'universitaires de trancher et de récompenser la démonstration la plus probante.
Victor Delande.
Merci, c'était le journal de François Geffrier. François, encore jeune journaliste fraîchement sorti de l'école supérieure de journalisme de Lille, lauréat de la bourse Loga. Et malgré cette insolente réussite, il n'en oublie pas les anciens. Il est le premier à prendre des nouvelles de ces noms prestigieux qui ont fait la grandeur d'Europe 1. Témoin, ce court dialogue entre lui et Anissa Haddadi. Un dialogue tout en respect, en classe.
Il y a Jackie Gallois qui vous embrasse tous.
Et comment va Michel Grossior?
Comment?
Jackie et Michel.
Ah putain.
Sacré François.
Ah,
le talent.
Europe 1. 5h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, oh my god, on connaît enfin le nom du Royal Baby. L'occasion pour Sœur d'Almeida de se pencher sur l'histoire des prénoms dans l'histoire de la royauté britannique.
Bon réveil à tous, il est 6h07. Il est 6h08, Mathieu Noël.
Céline, j'ai très envie qu'on fasse un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Céline, oui. Justement aujourd'hui, en attendant le retour hypothétique du soleil, nous enfilons nos bottes en caoutchouc.
Oui, c'est vrai. L'activité idéale entre 2 averses, c'est d'aller sauter dans les flaques. Est-ce que vous le faites, ça, sauter dans les flaques?
Non, j'adore, je vous avoue
ça.
Que je ne l'ai pas fait depuis de nombreuses
chouette.
Années. Bah, Eva, si jamais quelqu'un croise dans la rue Eva en train de sauter dans une flaque,
c'est normal.
Je suis très preneur de la vidéo.
Ouais. Bah, elle a bien raison en tout cas. Alors, rebelote aujourd'hui, les averses vont s'enchaîner. Elles sont déjà bien présentes ce matin sur une grande partie du pays. Elles vont s'intensifier dans la matinée sur le nord-est avec un vent soutenu. Cet après-midi, on aura même sur ce secteur un risque orageux. Encore des averses pour les autres, avec le retour de quelques éclaircies quand même sur le nord-ouest. Là où on va rester au sec, c'est entre le sud de l'Aquitaine, la région PACA et la Corse, avec là aussi du vent, un vent bien sensible entre 60 et 80 km à l'heure. Les températures, elles sont semblables à celles d'hier. Cet après-midi, la moyenne ira de 14 à 23 degrés du nord au sud, avec un 17 à Paris.
Merci Céline. Eva Rock.
Et oui, depuis ce matin 5h, vous réagissez à la question qu'on vous a posée, à savoir ce que vous pensiez de Pierre Desproges. Est-ce qu'il vous manque puisqu'il aurait eu 80 ans aujourd'hui? Alors Sophie, son message résume à peu près tout ce que vous pensez d'une façon générale. L'époque de l'humour de Desproges est révolue. Malheureusement, on ne peut plus rire de tout sans se faire traiter de raciste, xénophobe, misogyne, homophobe. L'humour a perdu de sa superbe, nous dit-elle. Et ça résume assez bien ce que vous nous dites sur Twitter. Allez, je finis avec une petite citation de Desproges qui me fait hurler de rire. En cas de morsure de vipère, sucez-vous le genou, ça fait marrer les écureuils. Voilà.
Mais vous n'avez pas hurlé.
Ben, non, hurlé mais, non, je n'ai pas hurlé.
Vous avez annoncé quelque chose que vous n'avez pas fait.
Non, allez, allez-y, continuez.
Enchaînez.
Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Un éclair de stupre est passé dans le regard des filles et pour cause. C'est un journaliste au corps parfait qui nous a rejoint dans ce studio. Port altier, pectoraux saillants, biceps alléchants. Céline, votre réaction?
J'aime bien Rio Zelmac.
Mais non, c'est Jérôme Lacroix pour le journal des sports. À la une, l'Europe du foot est folle.
Me neither, I cannot believe it. Comme ça, on étouffe presque ce commentateur anglais. Moi non plus, j'y crois pas. Quelle fièvre s'empare donc des demi-finales de la Grande Ligue des Champions après Liverpool qui terrasse Barcelone. Voilà ce matin, les Londoniens de Tottenham qui rejoignent Liverpool en finale à l'issue d'un scénario décapant à Amsterdam. Les Londoniens menés 2-0 à la pause par les talentueux jeunes de l'Ajax. Ils s'imposent finalement 3-2 et le big man of the match ce matin, il est brésilien. Lucas Moura, 26 ans, auteur des 3 buts londoniens, hat-trick, coup du chapeau comme on dit, pour 3 buts consécutifs, l'ultime but décisif inscrit à la 6e minute des arrêts de jeu. Lucas lui-même ébahi, en français s'il vous plaît. Bah oui, c'était un joueur du PSG jusqu'à janvier 2018.
Il n'y a même pas de mots, c'est difficile d'expliquer ce moment, très très heureux, très fier de mes coéquipiers. Il faut profiter là ce moment, je ne sais même pas quoi dire, c'est juste.
Et oui, ambiance dans le vestiaire anglais, on n'a pas fêté ça au champagne, mais à l'Oasis.
Voilà.
Il chante une
joli
chanson de ce groupe de rock, donc Oasis. Première finale des Ligues des Champions pour Tottenham. Et très grande émotion de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG au début des années 2000. Il était en larmes au coup de sifflet final.
L'autre grand bonhomme du match est français.
C'est Hugo Lloris, gardien et capitaine de Tottenham, auteur de plusieurs parades décisives hier soir. En juillet dernier, il remportait avec les Bleus la Coupe du Monde. Et voilà que le mois prochain, il va peut-être décrocher sa première Ligue des Champions.
On revient de tellement loin, on n'a pas lâché, on y a cru jusqu'au bout. Des actions pour eux, des opportunités pour eux, des chances pour eux, pour nous. Enfin, ça c'était un peu foufou. Et là où on y pense le moins, c'est là où on marque. C'est incroyable.
Des propos recueillis par Cyril de la Moinerie. Et là, vous entendez les supporters de Tottenham. Ils sont restés longtemps dans les tribunes d'Amsterdam. Là, il est près de minuit parce que les joueurs sont revenus sur la pelouse pour un ultime moment de communion. Alors, il paraît que l'Angleterre ne veut pas de l'Europe. Bah, la finale de la Ligue des Champions, elle sera 100% british cette année. Liverpool-Tottenham, deuxième fois de l'histoire que ça arrive 11 ans après à Manchester United-Chelsea. Rendez-vous le 1er juin à Madrid.
Et Pochettino, l'entraîneur qui dit que Hugo Lloris est tout simplement le meilleur gardien du monde. Un mot de tennis, Jérôme, et savoureuse affiche aujourd'hui au tournoi de Madrid.
Mon fils Federer pour une place en quart de finale. Bon test pour l'un comme pour l'autre à 3 semaines de Roland-Garros. Il y aura aussi Chardy Djokovic. Chardy qui s'est qualifié hier. Mais élimination en revanche de Lucas Pouille et Caroline Garcia.
On termine avec l'histoire du jour.
Filé aussi vite qu'Usain Bolt, le Jamaïcain roi du sprint mondial. Mais en trottinette, le Figaro nous apprend ce matin que la semaine prochaine, des trottinettes électriques en libre-service vont être déployées à Paris. Marque Bolt Mobility, c'est américain, ambassadeur Usain Bolt. De quoi peut-être vous rendre au boulot en 9 secondes 58. C'est son record du monde. Du
je vois Céline Dacosta qui affiche un grand sourire, car elle adore croiser des trottinettes. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, puisque vous êtes bilingue, je vous propose de lancer la chronique histoire de Fabrice Dalméda sur la monarchie anglaise. Vous vous sentez prêt?
Miraculous comeback, oui. One of the most outstanding results in their history.
Alors, il n'était pas prêt. Ok, Jérôme, enough.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
c'est historique.
Bonjour Fabrice Delmeda.
Bonjour à tous.
Hier, Harry et Meghan dévoilaient le prénom de leur petit garçon Archie Harrison. Mais en quoi les prénoms peuvent-ils intéresser l'historien que vous êtes ?
C'est une bonne question parce qu'on accorde beaucoup d'importance aux noms des familles royales, car ils indiquent les dynasties, mais les prénoms sont un bon reflet de la culture et des ambitions que les parents ont pour leurs enfants, car évidemment, ils ont un sens. Les premiers rois d'Angleterre, par exemple, avaient des prénoms qui disaient une vertu. Alfred, le premier vrai roi d'Angleterre qui a régné de 871 à 899, avait un vieux prénom anglo-saxon qui signifiait le conseil des elfes, la sagesse en somme, la protection divine. Son successeur et fils s'appelait Edward. En français, le garde riche ou le guerrier bien loti. Bref, la sécurité et l'opulence. Il y a eu aussi Edgar, la lance puissante. Et puis ensuite, les prénoms ont affiché une origine, comme Sven, Knut, William, ces prénoms qui sont venus du Danemark, ce que nous appelons nous les Normands. William, hein, c'est notre Guillaume qui signifie la volonté, le the will, hein, et puis le casque, helm, la protection. Donc quelque chose comme une sorte de puissante protection volontaire. Bref. Ensuite, on suivit les noms des rois venus de France, comme Jean, alors en anglais John, qui vient en fait de l'hébreu. Hein, bon. Et puis Richard, lui aussi, hein, qui signifie le courage et la hardiesse du pouvoir. Et puis ensuite, il y a eu encore les prénoms écossais. Je ne vais pas tous vous les faire, donc James et Charles d'Écosse, par exemple.
Et quels ont été les prénoms les plus attribués ?
Alors, il y a eu, dans la ligne officielle de succession, 8 Édouards. Mais il y a eu 2 rois dissidents qui s'y ajoutent. Donc, on peut dire qu'il y en avait presque 10. Il y a eu aussi 8 Henri, 6 Georges, 4 William et même, tenez-vous bien, 2 Edmond. Alors parmi les femmes, il y a eu Anne et puis il y a eu aussi 2 reines Marie et chacun le sait, 2 reines Élisabeth.
Et le choix est plus large pour les enfants ayant peu de chances de régner.
Bah oui, et c'est le cas du petit Archie. Harrison Archie, c'est le diminutif d'Archibald, un prénom d'origine germanique qui signifie vraiment brave, même si les mauvaises langues disent que bold, veut aussi dire chauve, j'en sais quelque chose. Mais son second prénom, Harrison, a un sens clair, c'est le fils d'Harry. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit cette manière écossaise et nordique de reprendre le prénom du père en ajoutant son pour dire le fils. Comme quoi, le choix des prénoms, même dans la famille royale anglaise, évolue sans toujours respecter la tradition.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font ou qui l'ont fait, en l'occurrence pas qu'un peu. En cette journée de l'Europe à 6h20, nous recevons sans chichi la ministre qui a signé les accords de Schengen pour la France.
Oh génial, bravo,
oui.
Bravo.
Oui, c'est vrai que c'est une belle programmation, mais ce n'est pas à nous de le dire Céline. Catherine Lalumière, actuellement présidente de la Maison de l'Europe, sera avec nous pour évoquer l'avenir de l'Union Européenne, si décriée par les populismes de tous bords.
Excellent réveil sur Europe 1, il est 6h17. Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Un témoignage sur Europe 1, la maman du petit Osnachi, le garçon qui avait été enlevé dimanche à Marseille. Cette mère de famille venue du Nigeria remercie les autorités françaises. On l'entendra dans le journal de 6h30. Journée d'action dans la fonction publique. Les 9 syndicats de fonctionnaires appellent à la grève et des manifestations partout en France contre le projet de loi du gouvernement censé moderniser leur statut. Enfin le foot, Tottenham qualifié pour la finale de la Ligue des Champions grâce à un but de Lucas à la 96e minute.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce jeudi 9 mai. Cette journée, c'est également la journée de l'Europe, fête célébrée dans les États membres pour commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le texte fondateur de l'Union. Où en est-on du projet européen alors que le Brexit et la montée des nationalismes rythment la vie politique du continent ? Existe-t-il une citoyenneté européenne ? Bonjour Catherine Lalumière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes la présidente de la Maison de l'Europe, observatrice et actrice privilégiée de cette actualité européenne depuis plus de 30 ans, car vous êtes aussi ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Europe et ancienne vice-présidente du Parlement européen. Alors, les élections européennes arrivent, elles auront lieu le 26 mai en France. On évoque une participation qui se situe autour de 40%, un taux qui ne cesse de baisser depuis 1979. Est-ce que la citoyenneté européenne existe ou bien c'est encore et toujours une arlésienne ?
Elle existe sur le plan juridique. Les traités prévoient la citoyenneté européenne. Mais le sentiment d'appartenance dans le cœur des gens, ça c'est une autre affaire. Malheureusement, ce sentiment d'appartenance n'est partagé que par une minorité sans doute de la population.
Voilà. Et le fait qu'il y ait 33 listes là, pour ces élections, est-ce que ça explique un peu le désintérêt pour le scrutin ?
Ah, ça ne favorise pas l'intérêt, parce que l'image, évidemment, est très confuse, très, très brouillonne. Finalement, les électeurs potentiels n'y comprennent rien. Et ça incite à l'abstention, en disant, finalement, tous ces bavards, on ne comprend rien de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils disent.
Mais c'est la faute à qui ? C'est les partis qui jouent, chacun décide de jouer sa partition plutôt. C'est un problème politique à l'échelle nationale.
Tout à fait. C'est la classe politique, disons de façon générale, c'est la classe politique qui a cette responsabilité. Alors, on en dira, mais c'est que je ne suis pas d'accord avec mon voisin, donc je veux un autre parti, etc., etc. Mais enfin, ce n'est pas très raisonnable. Et en tout cas, ça ne favorise pas la clarté des messages, et ça ne favorise pas l'engagement des électeurs, quoi, c'est certain.
Alors Catherine Allumère, vous dites l'Europe est un projet original et magnifique, vous êtes battue pour ce projet. Aujourd'hui, quand vous voyez entre le Brexit, entre les populismes, que ce soit de droite ou de gauche, on a l'impression que le projet même d'Union européenne est menacé. Vous devez être un peu désespéré, le mot est peut-être fort, mais enfin, quand même, ce n'est pas une période faste pour l'Union européenne.
Non, vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas désespéré, mais je suis en colère quand même. Je ne suis pas désespéré parce que, pour moi, si vous voulez, le projet européen est une nécessité. Alors, si on ne le réalise pas...
Mais c'est peut-être ça qu'on a oublié, que c'est une nécessité. Peut-être les jeunes générations ne le voient plus.
Fondamentalement, c'est ça. C'est que on a oublié que le monde avait changé, il change très vite, que dans le passé, un pays comme la France pouvait avoir une certaine indépendance. On n'est jamais à 100% indépendant, mais enfin, on pouvait avoir une certaine indépendance. Aujourd'hui, on est trop petit, car le monde a changé. Nous avons des puissances hyper puissantes. Je pense à la Chine, les États-Unis, bien sûr, des pays comme l'Inde, etc. Les transformations du continent africain. Enfin, à l'échelle du monde, il y a eu d'énormes changements, et un pays comme la France ne peut plus jouer le rôle qu'il a joué au 19e siècle ou au début du 20e.
Ce que vous voulez rappeler aussi face aux enjeux mondiaux, aux enjeux comme l'écologie, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la pollution, le CO2 ne s'arrête pas aux frontières,
chaque pays a une responsabilité, chaque citoyen a une responsabilité, mais il est évident que les grands enjeux nécessitent des grandes puissances. Et
des réponses concertées collectives.
Tout à fait. Les Européens, et nous avons à défendre beaucoup de choses. Hein. Nous avons à défendre notre économie, c'est pas rien, mais peut-être plus encore notre culture, les valeurs.
Alors justement,
nous sommes profondément attachés.
Justement, vous dites le projet européen a été modifié et amoindri. On en a fait un projet purement économique, matérialiste. C'était pas le cas au départ.
Mais absolument. On a oublié que les pères fondateurs n'ont pas commencé par le traité de Rome, qui lui est un traité économique qui date de 1957. Ils ont commencé par la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de 1950, donc du tout début. C'est-à-dire, dans cette convention des droits de l'homme, vous avez les valeurs humanistes qui sont la pierre angulaire de la construction européenne et de la culture européenne, ou je pourrais dire de la civilisation européenne. Et ils ne s'étaient pas trompés. En réalité, après le Troisième Reich, après les régimes totalitaires qui avaient dominé l'Europe des années 30 et 40, il fallait réaffirmer les valeurs fondamentales de la civilisation européenne et repartir sur des bases saines.
Oui, peut-être la mémoire effectivement un peu courte. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement trop de pays membres de l'Union européenne pour qu'elle fonctionne bien ? Est-ce qu'elle n'a pas grandi trop vite avant d'avoir des jambes assez musclées, si j'ose dire ?
Non, je ne crois pas du tout à cela. Vous savez, quand on s'y est
ouvert... Je me permets cette réflexion parce que Thomas Piketty, qui lance un manifeste aujourd'hui, dit « l'Europe, on n'y arrivera pas à 28 », et il prône une Europe à deux vitesses, quelque part.
Oui, mais on peut On peut très bien concevoir qu'il y a un noyau d'avant-garde et puis ensuite c'est rejoint par d'autres pays, puis encore d'autres pays. Ça, il peut y avoir une progressivité.
Mais en termes de nombre de membres, c'est pas un problème.
Poser en principe qu'il y a les bons ad vitam aeternam et il y a les mauvais ad vitam aeternam, ça je ne le crois absolument pas.
Un mot de l'écologie. Est-ce que, là, on voit que le credo choisi par la liste de la majorité pour les élections européennes, le programme de La République En Marche, est très basé, axé en tout cas sur l'écologie. Il propose notamment la fin des centrales aux énergies fossiles en 2050, l'arrêt de la vente de véhicules thermiques d'ici 2040. Est-ce que c'est un bon axe pour réintéresser les gens à l'Europe, l'axe de l'écologie?
Bon, c'est tout à fait vrai que c'est devenu un des dossiers les plus importants, les plus cruciaux. Et je crois vraiment que les gens considèrent que ce dossier, l'écologie, sauver la planète, ça ne se réduit pas à l'action d'un pays enfermé dans ses frontières nationales, etc. Mmh. Si on peut avancer, si on peut trouver des solutions, c'est à plusieurs. Et incontestablement, la dimension européenne est une très bonne dimension. En attendant, sur ce sujet,
dimension mondiale,
le monde, mondiale. Le monde
oui,
bah, entier.
Ça, n'allons pas trop vite en besoin.
Non, mais au moins que les Européens travaillent ensemble et s'entraident et s'encouragent les uns les autres pour aller plus vite et plus loin en matière de protection de l'écologie.
Et justement, l'Europe de la défense, est-ce que ça restera éternellement une chimère? Moi, on en parlait à l'époque où j'étais sur les bancs de la fac encore. Quand on voit les tensions internationales, il y a encore avec l'Iran qui annonce suspendre une partie de ses engagements sur le nucléaire, on dit que ça serait bien d'être unis en tant qu'acteurs géopolitiques pour faire face à ça.
Vous savez que les problèmes de défense et la politique étrangère, dans les eurobaromètres, régulièrement, la grande majorité de la population
sont
est pour
ça,
une
oui.
action européenne. Les gens ne sont pas stupides. Ils ont parfaitement compris que pour certains grands problèmes, notamment la défense, la dimension nationale n'est pas à la hauteur. Il faut autre chose. Et l'Europe est appelée par les opinions publiques. Donc, vous me disiez, est-ce que je suis découragé?
Non, je ne suis pas découragé
parce que ça me paraît tellement important, si vous voulez, qu'on ait cette dimension européenne pour nous aider, pour nous protéger, pour travailler à une échelle réaliste, que je suis persuadé qu'on y arrivera. On y mettra peut-être trop de temps, mais on y arrivera.
On y arrivera. Merci beaucoup Catherine Allumière. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Maison de l'Europe à Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.
Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent avec le journal de l'insolemment talentueux David Doucan et puis la météo et encore et toujours une journée pluvieuse. Oh les cœurs quand même.
Et les 6h29, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal du très moyen David Doucan, voici...
Il a dit tout l'inverse il y a deux secondes.
Rapport à une petite bâcherie en tête, voici la météo de Céline Dacosta. Une météo avec de la pluie et du vent. Et pas de sponsor, visiblement.
Non, effectivement. Bon, salut Rénoval, qu'on adore. Et ça, quasiment partout, dès ce matin. Cette pluie et ce vent, les averses les plus soutenues vont se décaler vers le nord-est avec un risque d'orage dans l'après-midi. Là où on va éviter le parapluie, c'est sur l'extrême sud, des Landes jusqu'aux Alpes-Maritimes et en Corse, avec un vent toujours bien présent, qui va souffler d'ailleurs un peu partout, avec des rafales entre 60 et 80 km à l'heure. Ce qui fait que le ressenti côté température sera un peu plus frais, forcément, avec une moyenne quand même timidement printanière de 14 à 23 degrés pour cet après-midi du nord au sud.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 5-7 différents, je l'espère, novateurs. Un 5-7 qui ambitionnait de placer la barre aussi haut en matière journalistique qu'en matière d'humour. Pour le journalisme, le contrat est à peu près rempli, on a David Doucan. Pour l'humour, en revanche, on a Céline Dacosta. Céline, qui après sa sortie de route sur Luigi di Mayonnaise, aurait pu choisir de se refaire une virginité humoristique en s'imposant le silence. Non, au contraire, elle a récidivé et elle ne respecte rien, même pas les partenariats européens.
Europe 1 célèbre les 40 ans de l'album culte Crash ton venin et fait sonner téléphone pendant 2 heures.
Un téléphone qui sonne pendant 2 heures, ça te rend dingue. C'est insupportable. Moi, je le débranche, je suis désolée.
Quand on pense que Pierre Desproges était né un 9 mai, une preuve supplémentaire que la réincarnation n'existe pas. Heureusement, on peut encore compter ici sur quelques vrais professionnels. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec notamment ce matin un autre grand débat qui vient de démarrer, la grande consultation nationale sur les déchets nucléaires.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Moins cher et plus clair, le prix du train. La SNCF lance aujourd'hui une nouvelle gamme de cartes de réduction, mais aussi une grille tarifaire simplifiée. Vous souvenez-vous du petit Osnachi, un garçon âgé de 2 ans, kidnappé par un homme, puis retrouvé grâce à l'alerte enlèvement. Sa maman témoigne en exclusivité pour Europe 1. Nouvelle journée de grève dans la fonction publique. Aujourd'hui, les fonctionnaires s'opposent au projet de réforme du gouvernement qui vise à moderniser leur statut. Et puis, il y a un domaine où les Anglais veulent rester le plus longtemps possible en Europe, c'est la Ligue des Champions. Match de feu hier soir, Tottenham a renversé l'Ajax d'Amsterdam, 3-2. Les Londoniens rejoignent donc Liverpool pour une finale 100% britannique.
Europe 1.
Une nouvelle initiative pour nous faire préférer le train. La SNCF lance aujourd'hui une opération simplification des cartes de réduction baptisées Avantage, toutes au même prix de 49€ et une grille tarifaire plus lisible pour acheter votre voyage. Explication Aurélien Fleuron.
Lorsque vous réserverez votre prochain billet TGV ou Intercité, il n'y aura plus que 3 choix, seconde classe, première et business première. Exit les différents tarifs loisirs et pro avec des prix qui pouvaient parfois varier du simple au double et ne manquaient pas d'énerver les usagers, à l'image de Sophie.
C'est la loterie, on ne sait pas du tout si... des fois on réserve plus tôt et on a des prix élevés. Là j'ai réservé relativement tardivement, j'ai eu un prix correct, si on peut appeler ça correct, 100€ pour faire un Paris-Montélimar aller-retour. Mais je m'y perds, franchement je m'y perds. C'est pas simple.
Bonne nouvelle pour ceux qui planifient leur voyage longtemps à l'avance. Les billets Prums seront désormais échangeables et remboursables, annonce Rachel Picard, directrice générale de Voyage SNCF.
C'est une grande nouveauté, puisque l'année dernière, en 2018, il y a 5 millions de billets Prums qui ont été achetés. C'était des billets non échangeables, non remboursables. Donc les gens, certains, se retrouvaient coincés au dernier moment. Certes, ils avaient acheté vraiment moins cher, mais ils ne pouvaient pas échanger au dernier moment.
C'est positif, estime la FNOT, même si la Fédération nationale des usagers des transports émet quelques bémols, notamment à propos des conditions d'échange et de remboursement. Pour tout type de billet, il vous en coûtera désormais 15€ si vous vous y prenez 48 heures avant le départ et que vous n'avez pas de carte de réduction.
Aurélien Fleurot, le spécialiste transport d'Europe 1. L'alerte enlèvement s'était une fois de plus révélée très efficace. Dimanche, un petit garçon de 2 ans avait disparu à Marseille. Quelques heures plus tard, il était retrouvé dans la Drôme et son ravisseur arrêté. Cet homme a depuis été mis en examen et placé en détention. On imagine le soulagement des parents du petit Osnachi. Il s'agit d'une famille de migrants arrivés du Nigeria il y a 3 semaines. Ils sont demandeurs d'asile. Ils vivent dans un squat à Marseille. La maman du bambin témoigne en exclusivité pour Europe 1. Reportage Nathalie Chevance.
Le petit Osnachi a retrouvé son grand sourire et ses copains du squat Saint-Just, là où il habite avec ses parents depuis 3 semaines. Incroyable destin que celui de cette famille qui a fui le Nigeria et son insécurité pour se retrouver dans un commissariat marseillais parce que leur fils de 2 ans venait de se faire kidnapper par un marginal. La maman d'Osnachi a encore du mal à réaliser.
Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je ne sais pas pourquoi il a pris mon enfant. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu et les gens de ce pays qui m'ont aidé à retrouver mon enfant. Nous venons d'arriver en France, on ne connaît personne. Je remercie aussi le travail de la police et toutes les personnes qui m'ont permis de retrouver mon enfant.
Une famille pleine de reconnaissance mais qui risque de se retrouver à la rue, le squat Saint-Just étant sous le coup d'une mesure d'expulsion. La maman d'Osnachi espère la clémence des autorités vis-à-vis du collectif.
Nous serions tellement heureux de rester ici car on m'a beaucoup aidé. Je serais ravie qu'on m'autorise à rester. Je veux vivre en France, avoir un travail, des papiers. Nous serions vraiment heureux.
Les parents d'Osnachi ainsi qu'une centaine de migrants se rassembleront cet après-midi devant le tribunal d'instance. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
4e journée de grève dans la fonction publique. Tous les syndicats de fonctionnaires sont unis contre le projet de réforme du gouvernement qui vise à moderniser le statut très protecteur des agents. Les protestataires y voient la volonté d'appliquer les recettes du privé au service public. Le texte, actuellement en commission à l'Assemblée, a déjà évolué pour répondre à la grogne avec l'introduction d'une prime de précarité. Anne-Laure Jumet.
Comme dans le secteur privé, les contractuels en CDD vont bénéficier d'une prime de précarité, une prime équivalente à 10% de la rémunération brute perçue pendant la durée du contrat. On va prendre un exemple, un agent qui touche 2500 euros bruts par mois et qui est embauché pour une durée de 10 mois, eh bien, à la fin de son CDD, il percevra une indemnité complémentaire de 250 euros. Une revendication de la CFDT, entendue par les parlementaires de la majorité et qui est remontée au plus haut niveau, puisque c'est Emmanuel Macron lui-même qui a arbitré en faveur de ce dispositif. Alors, précision, cette mesure est limitée au CDD de moins d'un an, ce qui concerne tout de même 68% des agents de la fonction publique en contrat à durée déterminée. Et le coût pour les finances publiques est évalué entre 500 et 600 millions d'euros. Mais la facture pourrait être moindre si le gouvernement décidait de ne verser cette prime que jusqu'à un certain montant de revenus. Une question qui doit encore être tranchée lors du débat parlementaire.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Des centaines de manifestations sont prévues aujourd'hui partout en France. À Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place d'Enfer Rochereau à destination des Invalides. Quant au projet de loi du gouvernement, il arrive en séance publique à l'Assemblée ce lundi. Sommet européen aujourd'hui à Sibiu, une petite ville de Roumanie. Les 27 se retrouvent sans le Royaume-Uni pour plancher sur l'agenda stratégique des 5 prochaines années et ouvrir les négociations pour l'attribution des grands postes européens.
À suivre dans ce journal, une centaine de médecins signent une tribune pour dénoncer un fichage des gilets jaunes lors de leur passage aux urgences. Le gouvernement dément. Le point sur ce sujet dans un instant. À tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Le ministère de la Santé profite-t-il du passage des gilets jaunes à l'hôpital pour les ficher?
C'est en tout cas ce que dénonce une centaine de médecins signataires d'une tribune dans l'Express. Le gouvernement dément toute volonté de fichage, ce qui ne suffit pas à rassurer Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et responsable CGT Santé, il demande une commission d'enquête.
Le gouvernement ment, c'est un fichage. Nos collègues présents dans les services d'urgence ont reçu des consignes orales et écrites d'inscrire l'identité des victimes provenant des manifestations dans un fichier d'identification. Il y a des règles qui pour nous sont intangibles. Ça fait partie du secret médical de protéger l'identité du patient.
Dans cette tribune, vous appelez à l'ouverture d'une enquête parlementaire.
Le contre-pouvoir légitime, c'est une commission d'enquête parlementaire, puisque les gens qui sont mis en cause sont des membres du gouvernement. Et il serait quand même un peu fort de café que le gouvernement freine une enquête parlementaire sur le sujet.
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et responsable CGT Santé au micro européen d'Hélène Terzian. Quelle magnifique édition de la Ligue des Champions.
Magnifique, mon cher David.
Bien sûr, 2019 aura été l'année des rebondissements. La finale de la compétition sera 100% anglaise puisque le club londonien de Tottenham a sorti un match d'anthologie hier soir, mené 2-0 dans la première mi-temps par l'Ajax d'Amsterdam. Score final 3-2 grâce à un triplé
vous
de
en l'ancien. Vous en
avez tout fait. Mais oui, parce que
vous emballez, vous emballez.
Ouais. Bon, cessez de m'interrompre, les gens veulent le score. Score final 3-2 grâce à un triplé de l'ancien parisien Lucas. Et donc, élimination des Hollandais. La finale Liverpool-Tottenham aura lieu le 1er juin prochain à Madrid. Et j'attire, pardonnez-moi.
Là, je sens que l'émotion est au rendez-vous une fois de plus.
J'attire maintenant votre attention, Mathieu, sur une affaire très grave. Des millions de personnes sont déstabilisées, vacillent sur leurs appuis.
Que se passe-t-il ?
Leur monde est bouleversé. Je vous parle d'un jeu de cartes, le Uno. Vous le savez peut-être, l'éditeur du jeu a publié un message sur son compte Twitter dans lequel il précise une règle.
Mais non.
Lorsqu'un joueur...
On va changer les règles du Uno.
Il faut que vous écoutiez là parce que c'est suffisamment complexe. Lorsqu'un joueur abat une carte plus 4 qui oblige le suivant à prendre 4 cartes. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est d'avoir le moins de cartes possible. Mmh. Bon, ce dernier, le suivant donc, n'a en définitive...
Ça y est, on a perdu le jeu.
Je reprends. Non mais attendez, il faut reprendre. Non.
Ah, c'est clair comme de l'eau de roche.
Oui. Lorsqu'un joueur abat une carte plus 4,
on peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper une fois. Lorsqu'un joueur abat une carte plus 4, voilà, qui oblige le suivant à prendre 4 cartes, ce dernier n'a en définitive pas le droit de contrer le coup avec une carte plus 2 afin d'infliger un plus 6 au troisième. Est-ce que c'est clair?
Oui, c'est très clair. Apparemment, beaucoup de gens appliquaient cette règle qui est donc illégale. Et donc, le fait que.
C'est un lancer le sujet.
Et donc c'est un bouleversement pour les gens qui jouent, qui aiment le Uno. Reportage de Victor Delande dans un bar à jeux à Paris.
Daphné, Stéphane et Anaïs entament une partie de Uno et ça commence mal. Impossible de se mettre d'accord sur cette fameuse règle du plus 2 et du plus 4.
Par exemple, si moi je mets un plus 4 et le prochain il met aussi plus 4, c'est celui d'après qui va se ramasser les 8 cartes. Si on est par exemple que 3 joueurs, parfois ça peut faire le tour entier et on se fait avoir.
La personne qui se prend un plus 16, c'est mieux que plus 4, quoi. C'est encore plus marrant.
J'ai toujours joué avec des tricheurs en fait, je pense que c'est ça en fait.
Dans son barrage Loya, Patrick adore expliquer les règles à ses clients. Pour lui, avec le Uno, il n'y a aucune ambiguïté possible.
C'est indiqué dans la règle depuis le début, il n'y a pas du tout d'imprécision. Et après que les gens lisent
connaissent pas la règle et que la plupart des jeux qui marchent très très bien sont passés de bouche à oreille d'un joueur à un autre. C'est normal, c'est le propre du jeu qui marche.
En recommençant une nouvelle partie, Daphné a soudain un doute sur une autre règle.
Si on oublie de dire Uno, moi je sais jamais combien de cartes faut ramasser. Il y en a qui disent 8, il y en a qui disent 4.
Comme quoi, autant adapter ses propres règles, mais si vous ne voulez pas que la partie vire au drame, il vaut toujours mieux les fixer avant le début du jeu.
Enquête signée Victor Delande pour Europe 1.
Oui, une sacrée enquête, effectivement. ça sent bon le prix Albert Londres. Non, Céline Mathieu. Dacosta, est-ce que vous avez compris la règle du Uno? Parce que vous m'avez l'air très impliquée sur le sujet. Hein.
Non, mais c'est un vrai sujet d'engueulade, ce truc du plus de plus 4. Donc c'est bien que ça ait été clarifié.
Absolument.
Moi, je dis bravo.
Et surtout, clarifié de manière vraiment très claire par David. Je crois que vraiment tous nos auditeurs ont beaucoup de réactions à Eva pour dire maintenant, grâce à David, on a bien compris les règles du Uno. On va plus s'engueuler.
On va plus s'engueuler. Moi, perso, c'est que les puzzles. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a que moi qui peux m'engueuler avec les pièces.
Non, c'est quoi les puzzles?
Les puzzles.
Ah, les puzzles, d'accord. Les puzzles, d'accord. Non, mais ça,
c'est quand même très clair. Le but, c'est d'avoir le moins de cartes possible.
Non, je vous en prie, David. Ne vous enterrez pas plus que tout à l'heure.
Attendez, j'ai réussi à vous expliquer le Brexit. Je vais réussir à vous expliquer le Uno.
Justement, je crois que c'est encore plus compliqué.
Vous avez une carte plus 4. Non, bon, allez-y.
On passe plutôt à la météo. Merci.
Et vous
David.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
On prend les mêmes et on recommence.
Oui, pluie et vent encore aujourd'hui avec quelques coups de tonnerre pour le nord-est cet après-midi. Temps sec en revanche du sud de l'Aquitaine à la région PACA, ça toute la journée. Ciel perturbé qu'on va conserver demain et samedi avec des averses, même si le soleil va faire timidement son retour. Dimanche, en tout cas, c'est le retour du soleil pour tout le monde. Et le début de semaine s'annonce pas mal du tout, le début de semaine prochaine avec beaucoup de soleil là aussi.
Merci. Patience. Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, chaque matin, ils vous aident à vous forger votre opinion. Les trois fantastiques affûtent leurs arguments. Ce matin, Mickaël Darmon nous parlera notamment d'un autre grand débat qui a commencé, celui sur la gestion des déchets nucléaires. Fini l'insouciance des années 80. On va faire la bombe atomique. Eh oui, maintenant, c'est un sacré casse-tête.
Bon réveil à tous, il est 6h43. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Moins cher et plus clair, les prix du train. La SNCF lance aujourd'hui une nouvelle gamme de cartes de réduction, mais aussi une nouvelle grille tarifaire simplifiée. Nouvelle journée de grève dans la fonction publique aujourd'hui. Les fonctionnaires s'opposent au projet de réforme du gouvernement qui vise à moderniser leur statut. Des manifestations sont prévues partout en France à l'appel de l'ensemble des syndicats. Enfin, si politiquement ils s'apprêtent à en sortir, sportivement ils en sont les rois. Les Anglais dominent l'Europe du football. Tottenham a renversé hier soir l'Ajax d'Amsterdam, 3 buts à 2 en Ligue des Champions. Les Londoniens rejoignent donc Liverpool pour une finale 100% britannique.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est le moment qui équivaut au plat de résistance dans un bon restaurant. Après les mises en bouche, l'entrée et juste avant le trou normand, mais là s'arrêtera ma comparaison, voici le plat de résistance de cette matinale. Les trois fantastiques servis chaud bouillant sur leur lit de scoop. Mickaël Darmon de retour d'un méga pont de mai pour la politique. Axel de Tarlé pour l'économie. Eva Rock pour les conseils télé. Espérons d'ailleurs, Céline, qu'Eva ne nous spoil pas le prochain épisode de Game of Thrones avec la voix d'Enrico Macias.
Je vais te divulgâcher les derniers épisodes de Game of Thrones.
Non,
tu vas voir.
Merci Eva, merci. On ne veut pas savoir. On commence par la politique. Avec vous, Mickaël Darmon. Un grand débat. La politique, c'est sérieux, Eva. Un grand débat peut toujours en cacher un autre. Depuis la mi-avril, une grande consultation est lancée sur le stockage des déchets nucléaires. Et en pleine campagne des européennes, c'est un dossier qui n'est pas mis en avant.
Et oui, on le voit, hein, La République En Marche place en tête de son programme l'écologie. Les principaux candidats, main sur le cœur ou doigt pointé, évoquent bien évidemment la cruciale transition écologique avec sincérité ou calcul. Mais il existe un enjeu très concret qui est un casse-tête pour l'État. Comment stocker les déchets nucléaires? Une grande consultation nationale sur la politique des gestions des déchets des centrales a commencé le 18 avril. Et le projet est enterré, on le sait, dans un immense sarcophage pour des dizaines de millions d'années à Bure, dans la Meuse. Donc les déchets nucléaires est au cœur des débats. La semaine dernière, les militants antinucléaires ont organisé sur place un week-end mobilisation qui, à Bure, devient un peu le l'Arzac atomique. Hein. Mais le débat et les mobilisations, elles ne pourront toujours pas remplacer les décisions politiques qui prennent du retard considérable parce qu'en fait, le processus donc effectivement est très très lent. Le gouvernement préfère beaucoup communiquer sur la fermeture de Fessenheim, avec promise pour 2020, avec une enveloppe de plusieurs dizaines de millions d'euros pour l'aide à la reconversion dans la région. Mais le sujet du stockage des déchets attend la fin de ce très lent processus législatif.
Voilà un beau sujet pour la campagne des européennes. Pourquoi les partis n'en parlent pas ?
Eh bien, lorsqu'il s'agit de ne pas froisser les électeurs écolos, tous aux abris, hein, pourrait-on dire. Et les faits, effectivement, sont là. Le nucléaire civil fournit 80% de l'électricité dite non intermittente. Sans parler de l'aspect de dissuasion côté militaire, hein, qui maintient la France au rang de grande puissance. Et le débat environnemental, en fait, est maintenant tellement au cœur de la préoccupation des Français que ça mériterait mieux quand même que les incantations ou les postures habituelles, parce que d'autres voix se font entendre également à l'étranger, comme celle par exemple de Michael Schellenberg. Il est nommé héros de l'environnement depuis 2008 par la presse américaine. Il préside un institut sur l'écologie. Il est un fervent militant de la lutte contre le réchauffement climatique et ardent défenseur du nucléaire comme garantie de l'énergie propre, figure de proue des écolo-modernistes, ces écologistes pragmatiques. Et pour lui, le nucléaire civil sauve des millions de vies, coûte moins cher que les renouvelables, dont l'impact premier, dit-il, est surtout d'augmenter le coût de l'électricité. D'autres acteurs de l'environnement en Europe appellent à regarder le modèle français et non pas allemand pour être efficace dans la lutte contre les réchauffements. En attendant, l'État ne reste pas inerte, puisque dans les prochains jours devrait être entériné par le président de la République une profonde réorganisation du nucléaire français. La preuve que pour donc la France, le nucléaire n'est pas en train de reculer dans les priorités de la politique énergétique, d'où les prudences au plus haut niveau en ces temps politiquement sensibles, parce que le dossier est politiquement radioactif.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cette analyse politique. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Les chauffeurs Uber se mettent en grève à Londres et New York. À la veille de la gigantesque introduction en bourse de l'entreprise, les chauffeurs dénoncent la précarité de leurs conditions de travail.
Et disons-le, Marx fait son comeback dans les pays anglo-saxons, parce qu'on n'est pas loin là de la lutte des classes, on n'est pas loin de la lutte entre le travail et le capital. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous regardez cette grève hier qui a eu lieu à Londres, mais aussi à New York, à San Francisco, Los Angeles, Chicago, il n'y a pas de revendication précise. Les chauffeurs Uber se sont mis en grève, et je vais vous citer, pour dénoncer la distorsion entre la précarité de leurs conditions de travail et les milliards que s'apprête à toucher les actionnaires vendredi, puisque demain, Uber va entrer à Wall Street. Ce sera la troisième plus grosse introduction boursière de tous les temps. Hein. Uber sera valorisé 90 milliards de dollars. Et donc ça hérisse les chauffeurs Uber. Je vais vous citer un syndicaliste anglais qui dit « Ce sont les chauffeurs Uber qui ont créé cette richesse extraordinaire, mais ils continuent de se voir refuser les droits les plus élémentaires du travail. » Donc vous voyez, c'est intéressant, ce n'est pas une grève de revendication, c'est une grève idéologique où on dénonce, je dirais presque une grève à la française. Hein, on critique le système capitaliste avec d'un côté des chauffeurs qui n'ont même pas le droit d'avoir de CDI, qui ne sont pas salariés, vous savez, qui sont payés à la course, et de l'autre, dont des actionnaires qui vont gagner oui, près de 90 milliards.
Parce que vous dites que c'est idéologique, qu'il n'y a pas de revendication, mais ils ne demandent pas, par exemple, un salaire minimum ou
ils demandent,
il n'y a pas des revendications précises.
C'est leur combat, mais qui est aiguillonné par demain cette introduction. C'est précisément à l'avant-veille
c'est
de l'introduction en bourse. Voilà. C'est vraiment le travail d'un côté contre le capital de l'autre. C'est en ça que c'est une grève très idéologique. Et ce qui est très intéressant, c'est une grève à la française, sauf que ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ça arrive dans les pays anglo-saxons. Ça arrive à nous, aux États-Unis et en Angleterre. Et ça reflète bien le tournant politique américain, avec d'un côté en Grande-Bretagne, vous avez le chef du Labour qui est Jeremy Corbyn, qui est un fieffé, maintenant on peut le dire, un fieffé socialiste, hein, qui veut nationaliser tous les services.
Non, mais justement, calmez-vous, je dis ça. Les bolcheviks ne sont pas nos portes.
Et aux États-Unis, vous avez Bernie Sanders, dont les idées socialistes. C'est plus un gros mot être socialiste aux États-Unis.
C'est vrai que longtemps ça l'a été. C'était l'équivalent de communiste.
La nouvelle égérie américaine de la politique s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez. Elle veut rétablir l'ISF. Donc vous voyez, on est bien à la fin d'un cycle. Et je vais vous rassurer, quand on entend tout ça, on a envie de dire Milton Friedman, réveille-toi, ils sont devenus fous.
Des propos qui n'engagent que vous, Axel. Mickaël Darmon.
Oui, ce qui montre bien qu'on arrive dans la période du post-capitalisme et libéralisme, parce que tous ces pays se mettent à redécouvrir effectivement le rapport au travail.
Voilà,
oui.
Et c'est en ce sens que j'ai trouvé que cette grève Uber était très intéressante.
Et si Milton Friedman pourrait faire la sieste encore un petit moment, personnellement, ça me conviendrait. Et Baroque.
Mais alors vous savez qu'il n'y a pas que la politique nationale ou internationale, comme on vient d'en parler dans la vie, il y a aussi la vie politique locale. Et ce soir, je vous encourage à regarder Vive la politique. C'est sur France 3. C'est un petit peu tard. Vous pouvez le revoir en replay dès demain à 23h30. Il faut vous imaginer le magazine Striptease a ressuscité et centré sur un sujet, la politique locale. Donc. Et c'est le pari de cette série documentaire qui est réjouissante, et notamment avec l'épisode du soir. On va à Moret-sur-Loing. Monsieur le maire, Patrick Septier, qui est en place depuis 30 ans, cherche des ressources financières pour sa commune. Eh bien, si cet argent venait de Chine, car oui, des investisseurs chinois sont intéressés par cette bourgade qui a longtemps inspiré les impressionnistes. Un investisseurs en particulier qui, lors d'un déjeuner dans un bistrot du village, annonce combien il est prêt à mettre sur la table. Il est face au maire et au président de la communauté de communes. Tendez bien l'oreille.
T'es prêt à mettre beaucoup d'argent là-dedans, il a dit. Pardon ? T'es prêt à mettre beaucoup d'argent ?
Illimité.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'État chinois. Et on est en train d'imaginer une sorte de 3 milliards d'euros.
Ah oui. On peut discuter là.
Oui, on n'est pas dans.
Il faut que vous voyez vraiment la tête du maire en l'occurrence quand il découvre la somme 3 milliards. Bon, alors sauf que le fameux investisseur.
Il a dû croire que c'est des anciens francs.
Non, il va être hospitalisé quelques jours plus tard et je vous laisse découvrir la suite. Il n'empêche, il y a bien un projet de coopération avec la Chine qui a été signé entre donc, cette commune et la Chine. Et donc les touristes chinois sont attendus. Reste à sensibiliser les commerçants de Moret-sur-Loing, réunion d'information et cours de chinois pour tout le monde.
Alors, on dit bonjour.
On peut avoir la phonétique avec. Parce que tout à l'heure, j'avais l'impression que le premier mot là se prononçait pas comme il était.
Déjà, ça commence mal.
Oui, ça commence très très mal. Et alors que le drapeau chinois flotte sur le village pour le plus grand bonheur de l'opposition communiste qui n'imaginait pas vivre ça un jour, eh bien, au bar, on commente évidemment beaucoup l'arrivée des fameux chinois.
On va finir avec des nems dans l'assiette ici. Hein ?
Oh non !
Mais si!
Non, moi c'est cuisine traditionnelle française. Ouais. Voilà. Donc ils vont apprendre à manger notre cuisine.
Vous l'avez compris, c'est un documentaire sans commentaire. C'est une tranche de vie, mais absolument hilarante, entre ce village de la Seine-sur-Mer et la province du Sichuan. Certaines scènes frôlent franchement le surréalisme. On n'est plus dans une toile de Sisley, mais plutôt dans une œuvre de Dali. C'est un film qui, au-delà de l'histoire de la commune, raconte aussi le quotidien des maires. C'est excellent. Vive la politique.
Merci beaucoup, Eva. Merci, Axel, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
À l'heure de céder la place à Nikos Aliagas pour la matinale d'Europe 1, Debout les copains pourraient le faire de manière lyrique et prétentieuse, il n'en sera rien puisque je me contenterai de vous dire...
Salut.
Oui, chers auditeurs, je vous dirai salut, mais pas avant d'avoir fait coucou à Nikos pour évoquer sa prestation d'hier. Et le débrief, c'est Nikos lui-même qui en fait le mieux la pub. C'est un genre de bilan de sa matinale de la veille.
Et vous allez voir, c'est embarrassant tout de suite.
Le débrief de la matinale à suivre.
Il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
La joyeuse bande de Debout les copains s'apprête à vous laisser, mais en fort bonne compagnie, puisque vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos, dont j'aimerais d'abord saluer ce matin l'abnégation, la colossale force de travail. On est presque mi-mai et il continue chaque matin à bosser d'arrache-pied. Mais qu'est-ce que vous prenez ?
Une petite flûte.
Non, Nikos, le café. Encore 2 heures à tenir, le café me semble plus raisonnable. Oui, même si le zèle est intact, Nikos est indéniablement rentré dans la phase PRFDR du matinalier. PRFDR pour plus rien à foutre de rien. Phase qui intervient généralement début mai chez l'individu obligé de se lever à 3h du mat depuis 7 ans mais qui n'a donc plus vu le soleil depuis la mi-octobre. Nico s'est très clairement entré dans cette phase où plus rien n'a vraiment d'importance, une phase de lâcher prise où on peut par exemple enfin dire ce que nous inspirent les pubs.
Quand on a eu comme cadeau pour ses 40 ans une tondeuse thermique à moteur Honda, franchement le reste...
Et pour les 50 ans, je prends une tondeuse thermique qui me fait le maillot. Allez.
Et oui, quand on est entré dans la phase PRFDR, pour rien à foutre de rien, on peut aussi tuer le temps en jouant à Motus avec les collègues de travail.
Motus.
Monsieur Fraise, F-R-A-I-Z-E. Merci Hélène Zélani.
Avec un Z aussi.
Une décontraction qui impacte aussi notre rapport aux femmes. On sait que les vacances d'été approchent, on va plus se voir. Alors on tente le tout pour le tout, on fait tapis, all-in, comme Nico hier durant le journal de Céline Kallmann.
Un peu de banane.
Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais ça ne va pas. Alors n'importe quoi. Oh merde.
Illustration de François Coulon à Saint-Étienne de Montluc.
Dis-moi Céline, je t'emmène à Saint-Étienne-de-Montluc.
Emmène-moi Nikos, où tu iras, j'irai. Fidèle comme mon bref.
Ouais, comme quoi ça paye de ne plus avoir de filtre, hein. On pêche au mieux. À moins que Céline Kallmann soit elle aussi en PRFDR. En tout cas, n'allez pas croire que le succès de Nikos auprès de la gente féminine soit lié à sa notoriété. Non, le bougre avait déjà du succès à l'époque où il n'avait pas un radis en poche. Et où, pour draguer, il disait, négligemment adossé sur sa 104 SP...
Je te paye un flunch. Avec des cheveux longs, dans la nuque.
C'est à cette époque, dans le ventre mou de l'adolescence, que Nikos a mis au point les techniques qui font de lui le Casanova qu'il est devenu. Une de ses techniques les plus rodées, le compliment groupé. Pourquoi dire à une seule femme qu'elle est belle quand vous pouvez le dire à 12 femmes différentes, multipliant ainsi vos chances de succès.
Vous êtes toujours fraîche, charmante et pétillante le matin.
Oh, bah alors ça, c'est très gentil. C'est faux, mais c'est très gentil.
Non, non, mais je le dirai aussi à Hélène Zélani et aux autres, vous inquiétez pas.
J'ai décidément beaucoup à apprendre de mon maître, Nikos.
Bravo, bravo. Et franchement, vous êtes allé loin aujourd'hui.
C'est vrai, toujours plus loin. Moi.
Vous êtes en train de nous faire engueuler, Mathieu.
Oui,
en fait.
C'est ça.
Vous
êtes avec le sourire, oui, voilà. Oui.
Quand il y en
loin.
A plus, il y en a encore.
Attendez demain.
Merci, Mathieu Noël. Reposez-vous bien. Merci, Eva Roch.
Merci, Nikos. Bonne matinée.
À vous aussi.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.